Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Nous allons parler de notre champion français avec Eric De Seyn, le patron de Yamaha Europe, mais également tout nouveau président de l'I2MA, l'équivalent de la FIA en Formule 1. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à tous. Bonjour
Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Bon, forcément, en ce moment, vous le savez mieux que quiconque, c'est une saison difficile pour Fabio Quartararo, champion du monde en 2021, seulement 11e au classement après 4 Grands Prix. Plus grave encore, le pilote français n'hésite plus à s'en prendre à son écurie. C'était il y a 2 semaines, on l'écoute.
On va falloir essayer de trouver une solution pour demain et surtout une solution pour rouler au moins derrière un pilote où on peut rester collé et essayer un dépassement, parce que là c'est vraiment un cauchemar. Il va falloir trouver une solution et surtout changer la mentalité du team, parce que je pense qu'on est plus en train de dormir que faire quelque chose de bien.
On est plus en train de dormir. Hier encore, après sa chute lors de la course sprint, Fabio Quartararo l'avait mauvaise.
C'est dur parce que quand on a une mentalité comme je l'ai, c'est compliqué de se dire voilà, ben c'est comme ça. Mais malheureusement, voilà, je pense que pour faire améliorer les choses, il faut rester calme. J'essaye de faire mon maximum et de pas m'énerver. Mais bon, en ce moment, on est dans une situation où on n'est pas bien. On n'a jamais été aussi mal.
Entendre Eric De Seyn avant d'entendre les grandes gueules
bon
du sport.
Bon entend matière, Eric. C'est sympathique.
Bienvenue. Bien comme ça. Ouais,
voilà, on a trop bien lancé. Bon.
Écoutez, voilà. C'est un métier. Nous adorons Yamaha et nous adorons Fabio Quartararo. Attendez, vous n'avez pas encore entendu le débat. Notre commentateur Paul Lafitte est avec nous. Rebonjour Paul. Tu as rencontré Fabio hier. C'est quoi le problème aujourd'hui et dans quel état d'esprit est le Niçois?
Le problème, c'est que l'homme ne fait plus corps avec sa machine. Qu'il se retrouve aujourd'hui face à une équation quasi impossible, performer au guidon d'une moto dans laquelle il n'a plus confiance et qu'il pilote sur un fil tout le temps à la limite. Quartararo, considéré par ses pairs aujourd'hui comme le meilleur pilote du plateau MotoGP, est aujourd'hui, on le sait, dans le ventre mou du classement général en raison du manque de compétitivité de sa Yamaha, et qui, si elle a gagné en puissance moteur depuis le début de la saison, a régressé sur le package aérodynamique, déficiente sur le train avant, sur sa capacité de freinage et notamment sur son agilité de passage en courbe, poussant notamment les ingénieurs d'El Diablo, le niçois, à un rétropédalage, à savoir revenir sur la base de la M1 de 2021, la moto qui avait permis aux Niçois de décrocher la couronne mondiale des pilotes. C'est un travail qui ne semble pas, j'y sais aujourd'hui, porter ses fruits. Quartararo ayant signé, tu le rappelais hier, le 13e temps des qualifications au Mans, avant de chuter hier au 10e tour de la course de sprint, alors qu'il occupait une peu reluisante 8e place au classement général, indigne évidemment de son rang de vice-champion du monde en titre. Et si le divorce ne semble pas encore consommé entre Quartararo et le team officiel Yamaha, il se murmure que les choses pourraient changer, peut-être en fin de saison, malgré la prolongation de son contrat chez l'écurie Nippon jusqu'en 2024, pour rebondir chez Ducati ou chez Honda, point d'interrogation, deux écuries capables peut-être de ramener El Diablo sur le chemin de la victoire.
Merci beaucoup Paul Lafitte pour ces précisions. Nous allons donc poser cette question et Eric De Seyn nous apportera des éléments de réponse pour savoir ce qui se passe en ce moment entre Yamaha et Fabio Quartararo. La musique qui fout les jetons, c'est de coutume dans cette émission, et cette question, mes GG, à force de se plaindre, vous avez entendu Paul Lafitte, vous avez entendu Fabio Quartararo. Est-ce inéluctable? Fabio Quartararo doit-il partir? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Marie Martineau?
C'est un non pour moi aussi.
Renaud Longuet?
Oui.
Simon Dutin?
Oui.
J'ai deux oui, deux non, évidemment, Eric De Seyn. Vous pouvez répondre aussi à cette question. En tout cas, votre regard sur la situation actuelle?
Bah écoutez, moi, ma réponse est non, en tout cas, au risque de vous surprendre. Non, je crois qu'on on met tout dans un panier en faisant une sauce malodorante, c'est dommage. Je crois simplement qu'on a un problème depuis le début de saison, on l'a exprimé, c'est qu'on n'arrive pas à gérer nos qualifications. Donc, et aujourd'hui, en Grand Prix, il faut avoir conscience que le plateau s'est resserré d'une manière encore plus violente que ce que c'était il y a un an ou il y a deux ans. Il y a un an, en une seconde, deux, il y avait les 15 premiers. Aujourd'hui, c'est en 7 dixièmes. Donc ça veut dire que le plateau s'est encore resserré, s'est encore regroupé. Et on fait partie de ce plateau qui s'est regroupé. Ici, on est à peu près 3 dixièmes, plus rapide que l'an passé. Donc il y a une progression, mais tout le monde progresse. Et c'est une partie du problème. Là où on a tout de même des éclairages intéressants, c'est qu'en rythme de course, que ça soit à Austin, que ça soit à Jerez, que ça soit ici, on est dans le coup. On est dans le coup. À Jerez, Fabio avait réalisé le meilleur temps au warm-up en conditions de course. Ici, il était encore en tête du warm-up jusqu'au dernier tour. Et puis finalement, il termine cinquième, mais il y a moins de dixième entre tous. Donc on s'aperçoit qu'en rythme de course, la moto est lisible. Et d'ailleurs, pas pour contredire Fabio, mon but n'était pas là, mais hier, quand il est revenu dans le box après sa chute, il était content. Pourquoi il était content ? Parce qu'il s'est retrouvé 16e au premier virage. Et il est remonté 8e. Et il a vu qu'à la régulière, il passait les Aprilia. Il a vu qu'il pouvait se battre. Et hier, en tout cas, il n'avait pas ce problème de surpression du pneu avant qu'il avait rencontré à Jerez. Ou lorsqu'il se retrouve derrière un paquet de pilotes, donc déventé, il a cette augmentation de la pression qui, à un moment, le rend en incapacité de pouvoir exploiter les capacités de sa moto.
Éric De Seyne, j'entends la méthode Coué, mais quand on entend Fabio Quartararo, on se dit que comment vous prenez ça en tant que patron d'écurie, j'imagine que ça fait pas forcément tout le temps plaisir. C'est peut-être juste de la com de sa part, mais
D'abord, il faut que je vous rappelle, moi je suis pas patron d'écurie, je suis patron de Yamaha en Europe, je suis au bord du Japon. Mais à un moment, autant je suis patron du Superbike, du Dakar, du motocross, du championnat du monde endurance, où là c'est moi qui contracte avec mes pilotes et mes écuries, autant sur le MotoGP, c'est sous le contrôle du Japon direct. Donc à un moment où moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir parler droit dans les yeux à Fabio, en tant que patron de Fabio Quartararo, en tant qu'ami, je lui dis des trucs. Et notamment quand la semaine dernière, où il y a 15 jours, il a dit « on est tous endormis », le dimanche matin, je lui dis, je te préviens, Fabio, tu m'as empêché de dormir. Parce que moi, sur Facebook, j'en ai reçu un paquet de mecs qui me disaient, alors est-ce que vous dormez ? Alors, si tu pouvais m'éviter ce genre de truc, ça m'arrangerait. Bon. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, Fabio est un champion. Ça a été dit tout à l'heure, il a été champion du monde en 2021 avec nous, il a été vice-champion du monde en 2022. Et d'ailleurs, une grande partie du plateau, par moment, lui dit, tu sais, arrête de critiquer parce que ta moto, on aurait bien aimé la voir. Bon. Donc, on est tous dans cette guerre-là d'une compétitivité de plus en plus exigeante. Vous savez, moi, j'ai démarré dans les Grands Prix en 83 et en 84. À l'époque, sur la première ligne, il y avait 1,8 seconde d'écart entre le premier et le troisième. Maintenant, on est dans un autre monde. Et cet autre monde, il a ouvert aussi d'autres technologies. Et nous, on sait que sur certaines de ces valeurs-là, on est en retard. Celle sur laquelle on est le plus en retard, c'est l'aéro. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous apercevez qu'un Ducati qui a quand même 8 motos sur la grille.
Mais alors, donc, justement, est-ce que c'est pas ça le problème, Eric ? Parce que là, vous battez face à une adversité qui est dingue. Parce que là, on est chez Pramac, mais Pramac fait partie de Ducati. Ils travaillent tous en commun. Vous avez deux motos. C'est difficile de lutter contre une armada comme ça.
On l'a pas souhaité, hein.
Ouais.
On ne l'a pas souhaité. Les 8 motos qui ont été accordées à Ducati n'étaient pas dans ce que la Dorna était censée organiser. Donc on s'est retrouvé face d'un seul coup à un acteur très puissant, dominant, qui en plus s'est retrouvé dans une période où maintenant on sait que Ducati appartient au groupe VAG, à Audi, et donc ont accès à des technologies, à des recherches du motorsport, de l'automobile. Et pourquoi l'aéro est venu dans la moto ? C'est parce qu'il y a des nouveaux acteurs, Ducati entre autres, mais maintenant KTM grâce à Red Bull, qui ont accès à des recherches, à un historique, notamment sur la connaissance de l'aéro, que nous, acteurs de la moto, on n'avait pas. Il n'y avait pas de travail d'aéro.
Yamaha, c'est quand même une marque importante, quand même.
Oui, mais l'aéro...
Vous n'êtes pas un petit artisan par rapport...
C'est pas ce qu'on dit. Mais je dis juste que cette technologie, cette recherche sur l'aéro... est quelque chose de très nouveau dans le MotoGP qui n'existait pas et sur lequel nous aujourd'hui il faut qu'on remonte le courant. Mais on n'a pas une alliance Formule 1, Motorsport au même titre que les autres. C'est pas pour ça qu'avec nos petits points on va y arriver. Hein. Mais donc on recrute, on intéresse, mais il faut acquérir cette connaissance parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement fin. Donc un des éléments clés, c'est cet aéro qui permet aujourd'hui d'impacter le comportement châssis des motos en virage et qui était notre point fort. Sans aéro, c'était la qualité de Yamaha. Avec aéro, on a perdu une partie de cet avantage.
Les GG, parlons de Fabio Quartararo et de ce début de saison et aussi de votre avis sur ce qu'il peut dire en conférence de presse. Évidemment, ce n'est peut-être pas le même son de cloche au sein de son écurie, mais forcément, c'est une résonance importante. Renaud Longuet.
Ouais, moi, je ne suis pas dans le monde des sports mécaniques, mais j'ai entraîné des champions du monde en athlétisme et j'ai essayé de réfléchir un petit peu à dans mon sport... il y a récemment eu un impact du matériel avec les semelles en carbone sur le marathon. C'est si on reprend un petit peu en athlétisme, on a les grosses marques Adidas, Nike, Asics, qui prennent les athlètes élites sous contrat. Et quand les semelles en carbone sont arrivées, c'est 2 minutes d'écart sur un marathon. Et donc on a vu des athlètes élites qui ont renoncé à leur contrat parce que tu peux pas. Quand t'es un champion, quand t'es un champion du monde comme Fabio Quartararo, tu peux pas te mettre au départ d'une course. Quand t'es un champion de marathon et que tu sais que tes godasses, elles te pénalisent de 2 minutes, tu préfères renoncer à ton contrat et aller chez l'équipementier qui va te payer moins parce qu'il a déjà d'autres athlètes très bien. Mais tu peux pas. Donc vous comprenez bien quand même que le temps presse. Pour quelqu'un comme Quartararo, il n'y a rien de pire pour un champion du monde que de se mettre au départ d'une course et de se dire que sa machine le pénalise. C'est juste insupportable pour un champion du monde.
Je suis très content parce qu'on se parle entre compétiteurs. Et la compétition, c'est ça. Yamaha est depuis 1964 en Grand Prix, avec son premier titre de champion du monde, il y a maintenant plus de 60 ans. Donc, je pense que la manière d'aborder la compétition de haut niveau, c'est dans nos gènes, et on le sait. Et quand je vous parle d'aéro, c'est pas que je renie cet aspect-là. On cherche au contraire toutes les variables sur lesquelles on peut intervenir. L'an passé, Fabio nous a demandé un moteur. La dimension du passage en courbe et la vitesse de passage en courbe n'était pas un sujet. Donc on s'est concentré sur le moteur. Mais heureusement pour nous, même si c'est pas très spectaculaire, on n'a pas travaillé que là-dessus. Ça veut dire que l'an passé, on est reparti dans une dynamique où vraiment on s'est donné les moyens. Où Yamaha a décidé, au niveau du groupe, de mettre les moyens. Comme on sait qu'on n'a que 2 pilotes, contrairement aux autres écuries, qui en général en ont 4, et comme c'était notre cas jusqu'à l'an passé, on n'avait pas le choix. Il faut écouter tout ce que nous demande Fabio et essayer de donner ce que souhaite Fabio. Donc, on a d'abord travaillé sur le moteur, et puis ensuite, il a fallu travailler sur le châssis. Parce que malgré tout, quand vous arrivez 10, 15 km à l'heure plus vite en bout de ligne droite, le comportement de votre moto au freinage et pour rentrer dans votre virage, c'est plus le même. Donc, à un moment, il faut s'adapter. Et une manière, c'était de retrouver de la stabilité à haute vitesse de la moto à cause de ses performances. Et là, on a reperdu en entrée en virage. Donc maintenant, quand on dit « oui, vous revenez en arrière », non, c'est pas qu'on revient en arrière, c'est qu'à un moment, on a devant nous un certain nombre de paramètres, semelle carbone ou pas semelle carbone, et à un moment, vous faites le meilleur compromis et le meilleur choix par rapport à ce que le pilote vous remonte. Donc on est dans ce travail-là.
La différence... Donc vous dormez pas chez Yamaha?
Non, mais un, on dort pas. Deux, on investit. Trois, il faut bien aussi avoir en tête qu'on est en face de motos. Je parle de Ducati principalement, mais aussi d'Aprilia, un peu moins de KTM qui a évolué, qui ont la chance d'avoir une moto avec une base extrêmement forte. Et quand vous êtes champion du monde, et on l'a connu en 2021, en 2022, vous ne faites pas la révolution sur votre moto, parce que vous savez que finalement, vous avez le meilleur package. Donc, c'est ce qui se passe aussi pour les autres, alors que nous, on a dû remettre en cause. Donc, il y a beaucoup d'éléments nouveaux sur la moto, mais on se retrouve dans une saison en 2023, où il a été créé cette sprint race, qui fait que d'un seul coup, il n'y a plus que 2 séances d'essais libres, et non plus 3.
Ce qui vous aide pas dans la situation dans laquelle vous êtes à devoir trouver des solutions.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une course contre la montre, mais c'est l'habitude en compétition, où on a moins de temps d'essai pour mettre au point la moto pour les qualifs et pour la course qu'auparavant, que même la saison dernière. Au moment où on a fait évoluer la moto.
J'ai envie de comparer ça un petit peu en Formule 1 à Mercedes. Juste avant, ne posez pas que des questions, j'ai envie d'avoir votre avis aussi sur la situation de Fabio Quartararo. Simon Dutin, tu prends la main et après Marie Martino.
Oui Eric, alors on ne fait pas toujours un métier facile parce que nous souvent on en parle entre nous, mais là vous êtes face à nous et on est obligé de prendre position, donc effectivement j'ai pas envie de vous vexer, d'autant que effectivement je ne suis pas un spécialiste des sports mécaniques. Je suis pas tous les week-ends dans cette émission. Je vous avais entendu il y a 18 mois dans la même émission. À l'époque, on se demandait, vous souhaitiez que Fabio s'engage sur le long terme, re-signe chez Yamaha. Vous aviez, sauf erreur de ma part, pris des engagements sur l'amélioration de la vitesse de pointe. Est-ce que ces améliorations ont réellement été effectuées? Vous dites que vous avez gagné en puissance. Est-ce que vous n'avez pas perdu du coup en aérodynamisme ou en ce qui faisait les forces de votre moto à l'époque? Est-ce que finalement il n'y a pas, moi c'est ce que je crois essayer de comprendre, un problème de développement? C'est-à-dire que souvent Yamaha débarre bien la saison et la deuxième partie de saison est plus compliquée. J'en veux pour preuve les 4 podiums seulement sur les 9 dernières courses en 2021. les trois victoires en début de saison 2022 et après cette avance record perdue par Fabio sur Bagnaia, il y a cette question des écuries satellites, Yamaha qui ne souhaitait s'engager que pour un an avec des écuries satellites. Qu'est-ce que vous répondez à ça si Fabio vient vous dire, bon écoutez, les engagements n'ont pas été tenus, quelle réponse avez-vous à lui apporter, à part effectivement, oui Fabio, effectivement on bosse, parce que comme disait Christophe, de la part d'une institution comme Yamaha, on ne doute pas que ça doit être l'émulation et que tout le monde fait ce qu'il faut pour améliorer la situation.
Non, alors deux éléments de réponse. Le premier, vous l'avez sur les chronos, regardez comme moi sur l'écran les vitesses de pointe et vous verrez que ce matin, à chaque fois comme hier, Fabio se situe dans les top 5 des vitesses de pointe, ce qui n'était pas le cas l'an passé. Donc aujourd'hui, on a des écarts de 2 km à l'heure à peu près par rapport aux meilleures vitesses. Donc sur ce point, je peux dire qu'on a répondu en tout cas à l'attente de Fabio. Et Fabio sait que c'est pas fini, puisqu'évidemment qu'on travaille pour continuer à améliorer. On se contente pas d'avoir rattrapé le wagon. L'idée, c'est d'essayer d'être devant le wagon. Donc on continue à bosser, et là-dessus, Fabio le sait très bien. Après, là encore, on est dans un environnement mouvant, et puis il faut bien comprendre qu'un package, c'est une moto et un pilote. Donc l'an passé, vous faites allusion à l'an passé, mais la deuxième partie de saison, je pense qu'on avait une telle avance qu'à un moment, mais Fabio lui-même le reconnaît, il a pris des options plus risquées qu'il ne l'aurait fait en début de saison, puis finalement, pas de bol, ça aurait pu passer, c'est pas passé. Bon. Et après, à Seine, les pénalités, le long lap, enfin bon, après il y a les circonstances de course, mais il faut l'accepter, c'est la compétition. Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que, et Fabio le sait très bien, et moi, j'ai encouragé Sumi-san, qui est le patron du développement technique au Japon de notre cellule MotoGP, j'ai encouragé Sumi à être plus ouvert avec Fabio, que Fabio connaisse absolument tous les plans sur lesquels on travaille. Parce que par moment, Fabio, il s'exprime par rapport à ce qu'il a entre les pattes.
Ouais.
Mais derrière, nous, on a parfois une vision différente, parce qu'on sait ce qui va intervenir, on sait ce sur quoi ça travaille, on sait ce qu'on a recruté, on sait ce qu'on a comme nouvelles compétences. Et tout cet environnement-là participe à donner une lecture du package qui va en évolution. Donc par moment, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus confiance que Fabio, mais j'ai une information qu'il n'a pas toujours.
C'est important d'avoir de la communication. Marie Martineau, rapidement les copains, parce qu'après on devra libérer Eric De Sède. Christophe aussi, vous m'intervenez.
Moi je regarde Eric, parce que j'ai réécouté tout ce que vous disiez l'année dernière, je trouve ça très intéressant, je vous trouve toujours très pertinent. C'est pour toutes les raisons dont vous venez de parler que je pense que Fabio Quartararo devrait rester chez Yamaha, parce que c'est là où c'est intéressant. Il n'est pas qu'un mercenaire qui monte sur sa moto et va à la chasse de centièmes sur des circuits. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour lui, et d'autant plus à ce moment-là de sa carrière, de s'inscrire comme un pilote qui est capable d'aider au développement, de trouver des solutions. Donc je suis ravie de vous entendre dire que vous poussez dans le sens d'ouvrir un peu toutes les vannes et pour qu'il ait toutes les informations. En tout cas, j'espère que ça lui permettra de rester et de vivre ce truc-là, de devenir encore un autre pilote. Il est champion du monde, c'est très bien, mais qu'il devienne encore, qu'il passe encore un cran pour devenir ce mec qui est capable de bosser avec ses équipes. Donc je souhaite vraiment d'y arriver. Ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer trouver des solutions avant la fin de cette saison, ou clairement ça va trop vite, vous allez jouer la sauvegarde, vous attrapez à la bouée de sauvetage et vous misez sur la saison prochaine en espérant...
Non, on ne peut pas être en compétition en MotoGP en ayant une attitude comme vous la décrivez. Mm-hmm. C'est incompatible avec la mission même du sport. Et sinon, il faut rester à la maison et vous faites des formules de promotion et puis vous en restez là. Non, on a une autre ambition, on a des solutions, on travaille. J'espère que... vous savez, il faut aussi accepter qu'il y a un règlement qui est assez fermé. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fait le show du MotoGP aujourd'hui. Mais les pneus, c'est tout le monde les mêmes. L'électronique, c'est tout le monde la même. Et donc, les variables sur lesquelles le constructeur peut jouer se sont pas mal réduites. Et en plus... on ne peut pas mettre sur la piste tous les développements qu'on a actuellement développés, parce qu'il y a des séquences sur lesquelles vous avez accès à porter quelque chose à la moto et d'autres pas. Donc par moment, il faut savoir faire avec le meilleur package qu'on a, et puis par moment, quand il y a la fenêtre, il faut tout de suite s'y mettre. Bon. Donc il va y avoir des évolutions, on travaille sur la moto pour exploiter les fenêtres où on peut apporter quelque chose. On l'a fait avec les échappements, on l'a fait... Donc en permanence, c'est un travail en permanence. Et donc la moto de fin de saison ne sera pas la copie conforme de ce qu'elle est aujourd'hui.
Très bien.
Donc après, dans quelle proportion ça va impacter, on le verra, parce que nos copains en général ils dorment pas non plus.
Exact.
Hein.
Très rapidement, Christophe.
C'est difficile de travailler avec un pilote qui balance constamment sur son écurie, Eric.
Évidemment que c'est difficile.
C'est la marque des grands champions aussi.
Hamilton fait un peu la même chose avec Mercedes.
Évidemment que c'est difficile. Je pense que je commence à avoir le cuir un peu tanné. Donc j'essaye de ne pas me laisser impressionner. Et moi, ce qui compte, c'est la communication avec le pilote. Ça veut dire qu'à un moment, on peut comprendre la frustration. Et donc la frustration, elle fait dire des choses. Mais à un moment, moi, ce qui compte, c'est la valeur du travail que l'on fait ensemble. Et tant que le travail il est intègre entre Fabio et l'équipe, j'ai aucun doute.
Éric De Seyne, combatif dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite une très belle saison. Et évidemment,
à l'année prochaine, vous reviendrez. Vous verrez, ouais, sera moins le tracteur.
J'espère qu'il y aura moins de oui.
Et évidemment, nous allons suivre avec attention la saison de Fabio Quartararo, ce Grand Prix du Mans. Et on souhaite beaucoup de réussite à votre écurie et à Yamaha. Merci d'avoir été avec nous, Éric De Seyne.